Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, chers amis, au nom du Conseil d'administration et de notre comité d'orientation et de toute l'équipe de Sol et Civilisation, je suis heureux de vous accueillir et d'ouvrir les 19e assises de Sol et Civilisation. Comme chaque année, je me réjouis de retrouver de nombreux compagnons de route, mais également de découvrir encore et toujours de nouveaux participants. Cela montre à la fois la solidité de notre aventure associative, mais également sa dynamique. Permettez-moi donc de vous saluer collectivement et de vous redire combien votre présence a de sens positif et nous encourage à poursuivre. Certaines personnalités n'ont pas pu se joindre à nous, mais m'ont fait transmettre leurs excuses et leurs regrets. M. Michel Mercier, ministre des Espaces ruraux et de l'Aménagement du territoire, Gérard de Caffarelli, qui fut président de notre association, Marie-Thérèse Lacombe, bien sûr, un nom que chacun connaît, Pierre Fauconnet, un de nos, fidèles participants qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Je tiens à saluer en ce début de matinée Jean-Marie Sander, le nouveau président du Crédit Agricole et qui a longtemps été président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, qui nous accueille encore aujourd'hui. Jean-Marie Sander a accepté, malgré un emploi du temps très chargé, pour ne pas dire très serré, de venir conclure nos 19e assises. C'est une chance. Sa fidélité, son intérêt à nos travaux étaient acquis et nous aurons l'avantage de connaître son point de vue sur les crises que nous traversons et comment les valeurs mutualistes auxquelles lui comme nous sommes attachés peuvent nous aider à les dépasser. Je souhaite également saluer ceux qui font vivre et soutiennent notre association. Je pense bien sûr aux membres de notre conseil d'administration, Henri de Benoît, Michel Rostagna et Dominique Viel, qui a accepté avec l'enthousiasme qu'on lui connaît d'animer cette journée. Michel Mollard, que nombre d'entre vous connaissent bien pour être présent, car il nous représente aujourd'hui à un colloque international en Biélorussie sur les questions du développement territorial. Son engagement auprès de Sol et Civilisation est toujours aussi actif et je remercie tout particulièrement. Je voudrais également saluer les membres de notre comité d'orientation. Certains, pour des raisons bien légitimes, ont souhaité cette année passer la main. Il n'en reste pas moins de solides soutiens, et c'est l'occasion pour moi de les remercier encore une fois pour leur engagement sans faille à nos côtés. Merci ainsi à Gérard de Caffarelli, Marie-Thérèse Lacombe, Gérard Lapuy, Henri Salmon, Jeannette Gros, Maurice Devaux, qui ont été à l'origine de notre projet et qui seront, j'en suis sûr, demain encore nos meilleurs partenaires. Je voudrais remercier notre équipe administrative très active, Guillaume Derissard, notre directeur, dont le dynamisme et l'engagement méritent d'être soulignés, Yang Farm et Thibaut Caillère, qui le secondent, tous trois, par leur sérieux et par leur engagement positif, l'image de notre organisation. Sol et Civilisation est le fruit d'une dynamique collective où se mêlent les personnalités du monde agricole et d'autres horizons de la société civile. Nous souhaitons conserver cette mixité et je souhaite ainsi remercier Anne-Claire Vial, Philippe Meurs, Pierre Baffert, Ambroise de Montbel et Claude Beaufort, dont les origines et les parcours sont très variés et qui viennent d'accepter de rejoindre notre comité. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de nos partenaires, nos groupes de travail et les structures associées avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Nous n'avons jamais souhaité avancer seuls. Cela est contraire à notre projet. Cela serait contraire à notre volonté de croiser les regards et les analyses et de rester ancré dans la réalité des problèmes et du vécu. Sol et Civilisation est le fruit de toutes ces énergies et de ces rencontres. Je tiens à souligner l'excellent travail du groupe dit de Toulouse qui se réunit régulièrement dans le Sud-Ouest et qui, au sein du réseau rural français, mène une réflexion approfondie sur la gestion territoriale des emplois et des compétences. Je souhaite aussi remercier pour leur confiance la Chambre d'agriculture du Vaucluse, son président Jean-Pierre Boisson et l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée et Corse, avec qui nous recherchons des avancées dans la gestion de l'eau aux particularités très marquées dans ce département. Le groupe Chartreuse et le parc naturel régional de Chartreuse, avec qui nous allons démarrer une intervention sur les questions de gouvernance. Et je ne veux pas oublier la coopérative Cicaselli, avec qui nous réfléchissons depuis longtemps au lien entre développement agricole et développement des territoires. Je souhaiterais enfin remercier l'association MVert, l'association Ruralité Environnement Développement, avec qui nous nous ouvrons aux questions de politiques européennes, l'AgroParisTech et l'équipe d'Henri Olagnon, avec qui nous cultivons des liens étroits. Vous le voyez, seule les civilisations est riche de ses différents soutiens et de ses partenariats anciens ou plus récents. Ces 19e assises sont donc aussi les vôtres, une opportunité pour penser certaines problématiques qui se posent à nos sols, à nos territoires, à notre civilisation et aux enjeux de société. Une occasion de montrer que les acteurs ruraux font preuve d'imagination et d'adaptation, une ouverture sur d'autres possibilités, un élargissement des horizons. Permettez-moi donc maintenant d'en venir à notre sujet du jour dont le titre appelle au volontarisme que je viens d'évoquer. Comment, après les crises, réinventer notre avenir. La période que nous vivons en effet est extrêmement troublée. Le pessimisme l'emporte souvent sur l'optimisme. Les crises s'enchaînent, le ciel paraît sombre et l'avenir inquiète. Nous avions ici même abordé en 2008 les crises agricoles et alimentaires. Rappelons-nous les émeutes de la faim, les aléas des cours des produits agricoles, le défi alimentaire angoissant. Tout ceci reste d'actualité. L'année dernière, nous évoquions d'autres crises écologiques, énergétiques ou financières. À chaque fois, les chiffres affolent et l'analyse montre la complexité des problèmes. Le futur serait donc définitivement compromis. Comment dès lors retrouver l'espoir et notamment comment retrouver des moteurs économiques vertueux. Permettez-moi, pour introduire cette vaste question, de souligner d'abord trois réflexions issues de nos précédentes assises. D'abord, il convient de voir large. Les crises que nous vivons ne sont en effet que le reflet d'une crise plus profonde, des symptômes d'une crise de civilisation, en quelque sorte, qui nous demande de repenser globalement les problèmes. Il n'y aura pas de solution sectorielle efficace. Il n'y aura pas non plus de solution unique. L'approche des problèmes devra être globale, systémique et modulée. Ensuite, il faudra certainement voir autrement les problèmes pour innover et trouver des solutions. Nous avions alors souligné comment sol et civilisation, que le monde rural, de par ses hommes et ses projets, nous donne justement à voir d'autres voies de développement. La ruralité n'est pas, à nos yeux, qu'un espace à protéger, une zone de respiration entre deux aires urbaines. C'est aussi et surtout une autre façon d'habiter le monde qui doit davantage inspirer. Il faudra revenir davantage au territoire. Dans ce monde de plus en plus ouvert et interconnecté, où paraît-il un battement d'ailes de papillon peut même provoquer un ouragan, il est en effet urgent de repenser nos relations entre les hommes, mais surtout et aussi à notre environnement, d'en faire un atout, une opportunité plus qu'un obstacle ou une contrainte. Les territoires comme espace d'intégration pourront alors être des lieux privilégiés de cette ambition. Et nous allons y revenir. Les défis auxquels nous devons faire face sont donc immenses et le temps presse. Nous en avons conscience. Nous pensons que la réponse ne pourra donc être que progressive et variée, plus diffuse que massive, et qu'elle sera pour partie portée par des territoires devenus acteurs. Il ne s'agit pas ici, sans le dire, de faire revivre un passé nostalgique, mais bien, comme nous y invite le fameux slogan « Pas de pays sans paysans », de retrouver le territoire pour agir. Cette formule chère à Raymond Lacombe ne s'adressait pas seulement à une société urbaine qui aurait oublié ses agriculteurs. Elle nous appelait, plus largement, à redevenir chacun des hommes de pays, au sens premier de l'étymologie du mot paysan, pour prendre, chacun à son niveau, sa part à l'œuvre commune. Notre sujet du jour souhaite donc porter cette question dans le champ de l'économie, dans une période où des relais de croissance indispensables sont attendus. La question est effectivement d'importance. Serons-nous en effet condamnés à subir une économie globale mondialisée ? La solution serait-elle dans la décroissance ? L'économie peut-elle être un vecteur de solutions efficaces ? Ou ne sera-t-elle que le miroir des marchés financiers ? Ces questions sont fondamentales. Y apporter des réponses absolues serait prétentieux. Ne pas les poser, ne pas y réfléchir serait irresponsable. Je ferai au passage deux réflexions. Évoquer la décroissance ne doit se faire qu'en sachant que beaucoup de personnes considèrent que l'appauvrissement est plus difficile à supporter que la pauvreté. Une seconde sur l'économie et la finance. Cet été, les incendies en Russie ont amené les gouvernements de ce pays à déclarer qu'ils ne procéderaient pas à des exportations de blé. Dès le lendemain, les cotations du blé se sont affolées et les cours mondiaux ont fait une envolée de 80%. Conséquences économiques ou conséquences financières ? Dans l'actualité de ces derniers jours, le verdict du procès d'un trader est tombé. Malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Peut-être. Mais les banques ont depuis procédé d'urgence à fiabiliser leurs procédures internes. Cependant, la spéculation ne s'est pas ralentie pour autant. Est-il vraiment impossible de trouver les moteurs économiques vertueux que j'évoquais il y a quelques instants ? La spéculation sur les denrées agricoles et alimentaires de base est inacceptable. Elle déstabilise les producteurs et, comme je le disais déjà lors de précédentes assises, elle conduit à affamer les peuples les plus pauvres et à déraciner leurs paysans. Ce thème avait déjà été esquissé l'année dernière avec Pierre Calame et son exposé sur l'euro-économie. Il nous invitait précisément à repenser l'économie en retrouvant le sens de son étymologie d'origine, à savoir l'art de gérer la maison. Philippe Vasseur, qui, je le rappelle, est aujourd'hui entre autres président du World Forum annuel de Lille sur l'économie responsable, nous interpellait quant à lui, dans ses conclusions, sur l'importance de retrouver une éthique pour l'économie. Ces interventions ouvraient ainsi, me semble-t-il, sur des questions importantes qu'il nous faut aujourd'hui reprendre. Comment pouvons-nous effectivement lier développement économique et développement humain? Qu'est-ce que finalement créer de la valeur? Et pour revenir à notre fil rouge, quel serait alors le rôle des territoires dans une économie à vocation davantage humaniste? Je tiens dès à présent à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui auront l'occasion de revenir sur ces questions, leurs expériences, leurs analyses, leurs regards ouvriront, j'en suis sûr, des pistes et des réflexions de qualité. Je voudrais pour ma part, et pour terminer cette introduction, souligner que l'option territoriale dont nous parlions tout à l'heure est à développer et qu'entre les économies de firmes qui font peu de cas du local et cherchent même à s'en détacher, et les économies du local qui restent sur des marchés de niche, une troisième voie complémentaire et performante est possible. Cette position résulte d'abord de l'observation. L'économie territoriale a en effet toujours existé et continue à se développer, avec des systèmes productifs locaux, notamment, songeons aux districts industriel italien, au cluster anglo-saxon, au pôle de compétitivité français ou au récent pôle d'excellence rurale. L'idée de mettre en synergie, dans un espace proche, autour d'un métier ou d'un marché, différentes entreprises, de mutualiser les efforts de recherche et d'organiser des partenariats pour faire jouer la solidarité est une démarche déjà ancienne. L'idée également de mettre en valeur certaines ressources spécifiques, matérielles comme immatérielles, pour gagner de la compétitivité, augmenter ses marges, est là encore relativement éprouvée. Dans le monde agricole, les produits AOC sont un exemple bien connu de cette mise en valeur du territoire, bien que souvent limitée au terroir. Les témoignages de la matinée vont certainement nous montrer que si ces démarches sont anciennes, elles restent néanmoins extrêmement modernes. L'économie du terroir, l'économie du local, l'économie du lien, qui nous seront présentées tout à l'heure, ouvriront vers cette voie territoriale qui, si elle a pu apparaître secondaire, est aujourd'hui très dynamique et se réinvente chaque jour. Elle s'appuie aussi sur la nature même de la mondialisation, ses dérives et ses exigences. On lui reproche en effet d'abord, très souvent, de conduire à l'uniformisation. Demain, où que l'on soit, nous serions condamnés à avoir les mêmes produits, à adopter les mêmes modes de vie. Or, à l'évidence, nous aspirons à davantage de diversité. L'économie des territoires et la mise en valeur de leurs différences pourront alors nous y aider. Il apparaît également que dans les marchés globaux où la compétition sera chaque jour plus âpre, l'innovation sera demain au cœur de la réussite. Or, celle-ci résulte souvent de la recherche, elle procède de plus en plus souvent de l'interconnexion des idées et des hommes. Nous retrouvons là encore, me semble-t-il, l'intérêt du territoire qui reste une matrice réellement efficace pour faciliter les rencontres et féconder les plus beaux projets. Cette position s'appuie enfin sur la lecture des crises mêmes que nous traversons. Comment préserver nos ressources naturelles? Comment éviter les gaspillages? Comment retrouver le plaisir du vivre ensemble et être davantage acteur du monde sans se perdre? Comment rester performant sans oublier les autres? Eh bien, je pense en liant ces questions plutôt que de les cloisonner, probablement en articulant les réponses plutôt que de les juxtaposer, sans doute en imaginant des projets intégrés. Bref, en reliant l'économie du territoire, l'économie au territoire et surtout aux hommes, il me semble que nous ferons là un pas en avant dans ce sens. Voilà en tout cas les quelques éléments de réflexion que je vous invite maintenant à poursuivre. Je vous souhaite une bonne journée et je vais maintenant laisser la parole à Dominique Vielle. Dominique, tu vas peut-être pas le faire toi-même, alors je voudrais peut-être quand même te présenter à tous ceux qui vont avoir l'occasion de t'entendre mener les débats au cours de cette journée. Dominique est une ancienne élève de l'ENA, spécialiste des questions écologiques et environnementales. Tu as publié en 2006 un livre, L'écologie de l'apocalypse, et tu es actuellement en poste au ministère des Finances. Je voudrais dire que tu es pour nous et surtout administratrice de sol et civilisation et que depuis déjà de nombreuses années, je dirais, tu fais route avec nous. Merci, je vais maintenant te laisser la parole en faisant quand même un petit commentaire personnel. Je dois te dire que j'ai toujours apprécié ta simplicité et ta spontanéité et je pense que l'ensemble de ceux qui sont présents aujourd'hui vont pouvoir l'apprécier aussi. Je te donne la parole. Merci.